Le code secret des Navajos pendant la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale, la télétransmission des messages entre les différentes unités militaires sur le champ de bataille, au niveau tactique, est monnaie courante. L'interception de ces communications par l'ennemi est également très fréquente. L'emploi de messages codés par les différents corps militaires du monde entier est censé protéger les unités, permettre des manœuvres futures sans être dévoilées et cacher à l'ennemi les plans des attaques secrètes à venir. Mais, malgré les méthodes sophistiquées de chiffrement, l'histoire a démontré plusieurs échecs très importants dans la protection des transmissions sur les différents champs de bataille. Par exemple, le décodage de la machine de cryptage Enigma, utilisée par les forces allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, aura permis aux Anglais et aux Américains de décrypter les messages des nazis. Cela s'est aussi produit avec le décryptage de la machine japonaise Purple, dont les codes ont été percés à jour. L'emploi du Navajo, une langue parlée par un peuple autochtone d'Amérique du Nord du même nom, est privilégié par l'armée américaine. Au vu de la complexité de ce langage parlé par très peu de personnes et aussi du fait qu'il ne s'agit pas d'une langue écrite, le code Navajo est réputé comme inviolable pendant la Seconde Guerre mondiale. Son emploi est étroitement lié à l'histoire de l'Amérique. Après des années de guerre avec les colons venus d'Europe, les Navajos et d'autres peuples amérindiens s'établissent au XIXe siècle dans des réserves. La question amérindienne n'aspire qu'à des réponses complexes sous la présidence de George Washington. À la fin du XVIIIe siècle, après plusieurs tentatives pour essayer d'instaurer la paix entre les différentes nations amérindiennes et les colons, le gouvernement américain a décidé d'abandonner la question de la citoyenneté des Navajos et des autres peuples natifs. Plus tard, cette question de la nationalité américaine des Amérindiens sera reconsidérée par les services locaux de recrutement de l'armée américaine. Ainsi, dans chaque bataille importante de la Seconde Guerre mondiale, il y avait toujours une unité amérindienne pour combattre aux côtés de ceux qui étaient considérés comme des véritables citoyens américains. Les différents généraux ont appris à tirer parti des spécificités culturelles de ces peuples. Certains officiers supérieurs confient parfois aux Indiens les missions les plus dangereuses. Leurs compétences accrues en furtivité permettent à des unités de prendre l'avantage sur l'ennemi. Par la suite, on découvre que leur langue si particulière et si difficile à comprendre permettrait aux Alliés de contrer les tentatives d'interception des télécommunications des Allemands dès la Première Guerre mondiale. Sur le front de Meuse-Argonne, en France, les troupes essuient plusieurs contre-offensives ennemies à chaque fois qu'elles tentent une manœuvre. Le commandement des 10 divisions de la 1ère armée américaine finit par comprendre que les Allemands sont parvenus à déchiffrer le code de leur communication. C'est lors de cette bataille que les Amérindiens sont pour la première fois utilisés comme code talker, transmetteur de messages tactiques secrets. En France, ce sont les Choctaws, un peuple de Nord-Amérindiens, qui sont choisis pour mener cette opération. Le principe est simple. Les peuples autochtones d'Amérique, des différentes unités, communiquent entre eux. Et les communications sont ensuite traduites en anglais par d'autres Choctaws, ayant la compétence de parler les deux langues. Mais bien au-delà d'une simple traduction de phrases, c'est tout un vocabulaire qui est réinventé. Au début du XXe siècle, le temps s'est arrêté chez les communautés amérindiennes. Les outils modernes employés pendant la guerre sont méconnus des Choctaws. Ils désignent les choses selon leurs propres connaissances. Pour désigner une attaque au gaz, ils évoquent un mauvais air, ou parle d'un orage de grêle pour interpréter une mitrailleuse lourde. Ainsi, le sens des messages apparaît bien flou pour qui ne maîtrise pas la langue Choctaw, les Allemands en tête. Depuis le succès de l'offensive, l'armée américaine compte sur les Amérindiens pour les aider dans leurs différentes manœuvres. Les Choctaws ne sont pas les seuls à s'être illustrés durant la Première Guerre mondiale. Durant la seconde bataille de la Somme, en septembre 1918, la 30e division d'infanterie des États-Unis charge ses soldats Cherokee de transmettre des messages aux unités britanniques. À chaque fois, un militaire américain d'origine Cherokee est présent dans l'unité de destination des messages. Après leur échec, les autorités allemandes ont essayé de contrer la stratégie des Code Talkers en envoyant des anthropologues aux États-Unis pour qu'ils étudient les langues amérindiennes. Mais c'est un échec en raison de la grande diversité de dialectes autochtones. Le programme Code Talker des Américains est redéployé à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale. Une petite unité de Cherokee participe ainsi au débarquement de Normandie en juin 1944. Pendant ce temps, sur le front Pacifique, les Navajos s'emploient à aider les marines américains dans leur conquête des différentes îles occupées par les forces japonaises. Les Navajos sont employés tardivement comme code talkers. Ce n'est qu'après l'attaque de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, que l'on cherche à trouver un moyen de brouiller les communications de radio. L'armée recherche des transmissions de messages sécurisés que les Japonais ne pourraient pas intercepter. Malgré l'emploi de la machine Sigaba, chargée du cryptage électromécanique, les Amérindiens ne parviennent pas à communiquer fluidement entre eux sur le terrain. Le traitement des informations par Sigaba est extrêmement lent. L'emploi du crypteur n'est pas possible lors des batailles. Ainsi, les soldats sont contraints de communiquer en anglais avec les postes de radiocommunication ordinaires. Or, de nombreux soldats japonais ont été formés à l'anglais avant d'être déployés sur le terrain. S'ensuivent de nombreuses opérations teintées d'échecs. Jusqu'à ce qu'un jour, un soldat, fils de missionnaire, nommé Philip Johnston, propose au commandement des troupes américaines l'emploi du code Navajo. Ces derniers cherchaient à perfectionner leur technique de codage avec une langue amérindienne bien plus difficile à déchiffrer que les autres, mais aussi plus récente. Et cela, afin de contrer les tentatives anthropologiques de l'ennemi pour apprendre les langues amérindiennes. Or, le peuple Navajo correspond justement aux critères de recherche. Le langage Navajo appartient à une branche particulière de la famille Athapascan. Cette famille de langues amérindiennes est aussi vaste que les différents territoires occupés par les peuples d'Amérique du Nord. Le Navajo ne ressemble à aucune autre langue parlée sur le continent. La particularité d'être une langue non écrite la rend impossible à translittérer, c'est-à-dire faire correspondre à un signe d'un système d'écriture, un signe d'un autre système. Il n'existe aucune représentation alphabétique des sons. Seuls les initiés peuvent l'apprendre. En 1940, seule une petite poignée d'Américains, qui ne sont pas des Navajos, sont capables de la comprendre, dont Philip Johnston. Lui a toujours grandi avec cette langue, puisqu'il a vécu avec son père missionnaire dans une tribu Navajo. Il sait qu'elle est parfaite pour chiffrer des messages militaires, puisqu'elle ne ressemble à aucun dialecte européen ou asiatique. Nous sommes au début de l'année 1942, et plusieurs batailles décisives doivent se jouer dans le Pacifique. Johnston rencontre le général Clayton Vogel. Au début de la guerre, il était chargé de la préparation des unités des Marines dans le cadre d'opérations amphibies. Mais l'attaque de Pearl Harbor le contraint à être transféré à la préparation de la flotte du Pacifique. Il a ainsi à sa charge toute la responsabilité administrative des forces marines dans la région du Pacifique Sud-Ouest. Une région particulièrement sensible aux attaques japonaises. Le général Vogel est très attentif à toute aide pouvant provenir de l'extérieur pour l'aider notamment au cryptage des communications. Pour mettre en lumière les compétences des Navajos, Johnston organise une série de tests avec une poignée de Navajo bilingues. Ces derniers sont placés en simulation de combat, au cours duquel ils doivent, sous la pression, décoder un message de trois lignes en anglais, le coder en langue Navajo et le transmettre. Ils ont accompli la mission avec brio, en seulement 20 secondes, alors qu'une machine de cryptage aurait mis à l'époque 30 minutes pour réaliser cette performance. Le général Vogel est conquis. Le 6 mars 1942, il rédige une lettre à l'attention de Thomas Holcomb, le commandant du corps des Marines. Il recommande l'emploi des Navajos pour leur rapidité, mais également parce qu'ils constituent la seule tribu non infiltrée par les étudiants anthropologues allemands venus espionner aux États-Unis. L'emploi de cette tribu amérindienne est rapidement validé par le haut commandement américain, mais le processus de recrutement s'avère complexe. les Navajos ne sont d'ordinaire pas familiarisés avec l'anglais. Or, pour pouvoir intégrer les Marines, il faut des hommes en bonne forme physique et parfaitement bilingues. À l'heure où les combats font des morts quotidiens sur les champs de bataille du Pacifique, il faut aller très vite. Un appel massif est lancé sur les terres Navajo. Ces terres ancestrales de la tribu Navajo s'étendent sur plus de 500 kilomètres, du Colorado au Nouveau-Mexique. Si certains Code Talkers sont volontaires, d'autres sont enrôlés de force par l'armée américaine. Le corps des Marines choisit des hommes très jeunes, dont certains sont mineurs. Le plus jeune des 29 premières recrues est âgé de seulement 15 ans. L'armée tient à ce que ces nouvelles recrues soient formées très rapidement. Les jeunes Navajos intègrent la Marine Corps Communication School à Camp Elliott, à San Diego, en Californie. Le programme d'entraînement des nouvelles recrues Navajos est très intensif, à la fois physique et intellectuel. On demande aux Navajos de déployer leur propre code de sorte à ce que les soldats américains puissent le comprendre sans compromettre le fond du message. Les Navajos se retrouvent dans la même difficulté linguistique que les Choctaws lors de la Grande Guerre. Les mots d'origine militaire n'existent pas dans leur langue. Les Navajos constituent un lexique de 274 mots. Des mots issus de leur milieu naturel pour remplacer ceux qui doivent désigner les machines de guerre, mais également des différents régiments d'infanterie. Ainsi, un colonel est un aigle argenté, un bataillon, une terre rouge, un tank, une tortue, un avion de chasse, un colibri. Pour le reste des communications, il est décidé que chaque mot anglais soit appelé lettre par lettre. Chacune de ces lettres est elle-même représentée sous la forme d'un nom commun anglais traduit en langue navajo. Prenons par exemple le mot « salut », en anglais « hello ». En code navajo, cela donnerait « horse, elk, lamp, lamp, all ». H-E-L-L-O. Tous ces noms communs sont ensuite transmis aux code talkers navajos dans leur langue. À la fin de leur formation, les code talkers sont capables de décoder un message en seulement 2 minutes. Il est temps pour eux d'être envoyés sur le terrain. Les premiers code talkers participent à la prise de Guadalcanal en août 1942 contre les forces japonaises. Les premières transmissions sont un peu hasardeuses, mais les Navajos s'avèrent être de redoutables guerriers. Ils se surpassent. Le code navajo rencontre un véritable succès. Il permet ainsi de donner des informations aux alliés sur les préparatifs des Japonais au cours d'une bataille navale décisive. Grâce au code, les Américains ont de l'avance sur leurs propres préparatifs. Le 11 novembre, le commandement de l'amiral Turner envoie un grand convoi de renfort à Guadalcanal. Les Japonais tentent une attaque sur les navires de renfort, mais c'est déjà trop tard. Les Américains ont pris de l'avance et les renforts sont déjà en position. C'est le premier grand succès dû à l'utilisation du code navajo dans le Pacifique. Un succès qui aurait pu se révéler fragile. Au début de l'année 1942, bien avant la formation des Code Talkers, le sergent Joe Keyumia, d'origine navajo, se fait capturer par les Japonais lors de la prise de contrôle des Philippines. Envoyé en prison durant des mois, il subit maintes tortures, forcé à décrypter le code navajo en vigueur par la suite à partir de fin 1942. Mais le sergent Joe Keyumia n'y parvient pas, puisqu'il ne l'a jamais appris dans l'école de San Diego. Suite à cet épisode, les Marines mettent en place une stratégie défensive pour éviter que le code ne tombe entre les mains de l'ennemi. Comme le retrace en partie le film de fiction de John Woo, Wind Talkers, sorti en 2002, chaque opérateur navajo est accompagné d'un soldat chargé d'assurer sa protection. L'ordre est aussi donné aux gardes du corps d'abattre le code talkers navajo si celui-ci risquait de se faire prendre par les Japonais. Près de 400 Navajos finissent par intégrer le corps des Marines et participent à l'effort de guerre. Ces soldats amérindiens permettent aux forces alliées de prendre le contrôle lors de la bataille d'Iwo Jima grâce à l'échange de plus de 800 messages indécryptables par les Japonais. À la fin de la guerre du Pacifique, le lexique navajo pouvait couvrir plus de 600 mots du vocabulaire de guerre ou du champ de bataille. Le code navajo est resté secret jusqu'en 1968. Il est employé dans d'autres guerres, en Corée entre 1950 et 1953, et au Vietnam à partir du début des années 60. La contribution essentielle des Navajos ne sera publiquement reconnue qu'en 2001. Le président George W. Bush a organisé une cérémonie pour honorer et médailler 21 soldats Navajos, vétérans de la Seconde Guerre mondiale et anciens code talkers. Depuis lors, chaque année, on commémore l'effort de guerre des Amérindiens le 14 août. Malgré cela, les Navajos demeurent des citoyens à part. Ils vivent selon leurs propres codes, leurs propres drapeaux et leurs propres dirigeants. Aujourd'hui, seuls trois vétérans ayant participé à des opérations lors de la Seconde Guerre mondiale sont encore en vie.